Nous sommes en train d'étudier l'évangile de Marc. En fait, nous sommes arrivés au milieu du chapitre 9, mais en cours de route, on a sauté un passage. Et je reviens à ce passage aujourd'hui. Pour qu'on puisse méditer sur un événement très important et très instructif pour nous. Donc, à partir du verset 24 dans l'évangile de Marc, chapitre 7. Donc, je lis le texte, et puis on lira aussi le texte parallèle de la version de Matthieu. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr. Donc, territoire de Tyr, c'est un territoire en région païenne. Jésus sort pour la seule fois des 3 ans de son ministère du territoire d'Israël. Et il va dans un endroit où on adore des faux dieux. Il entra dans une maison, il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. La raison, c'est parce qu'il vient d'avoir des moments difficiles, des disputes avec les responsables religieux juifs, les pharisiens. Et donc, il veut se retirer un moment. Il va dans un endroit où personne ne va le trouver. Sans doute dans une maison juive à la frontière donc d'Israël et de la région de Tyr et de Sidon. Verset 25. « Car une femme dont la fille avait un esprit impur, donc un démon, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. » Vous pouvez imaginer la scène. Cette femme était grecque d'origine syro-phénicienne. Elle lui demandait de chasser le démon de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier. » car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, à cause de cette parole, à cause de cette réponse, « Va, le démon est sorti de ta fille, et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva que l'enfant était étendu sur le lit et que le démon était sorti. » Je vais juste vous lire la version de Matthieu, sachant que Matthieu était présent à cet événement. Marc, non. Marc nous raconte ce que l'apôtre Pierre lui a dit au sujet de l'événement. Et si vous lisez sa version que nous venons de lire, ça se lit comme le récit de quelqu'un qui n'était pas là. Mais vous allez voir que Matthieu ajoute quelques détails, des détails évidemment de quelqu'un qui était présent. Et bien sûr, Dieu voulait qu'on ait toutes les deux versions parce que chacun est en train d'accentuer quelque chose dans l'événement en dépendant de la manière dont Dieu le guide et aussi l'auditoire qu'il a devant lui, Matthieu écrivant, surtout pour les Juifs par exemple. Alors, donc, Matthieu nous dit ceci. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme canadienne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David !» Remarquez bien que Matthieu, qui écrit aux Juifs, remarque le fait qu'elle adresse Jésus comme les Juifs adressent le Messie. « Aie pitié de moi, Jésus, fils de David !» un terme qui signifie le roi messianique qui devait être descendu de David et qui devait venir un jour. « Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il, Jésus, ne lui répondit pas un mot. Jésus ne lui dit rien, ne reconnaît même pas qu'elle ait dit quelque chose. Elle est à ses pieds, elle crie, angoissée, et Jésus ne dit rien. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Probablement un peu plus tard. Donc, elle ne quitte pas le lieu, n'ayant pas reçu de réponse de Jésus, mais il crie derrière les disciples. Il répondit, Jésus répond aux disciples, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Elle n'est pas d'Israël, cette femme. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Il semble qu'elle a un troisième refus de la part de Jésus. « Oui, Seigneur, dit-elle, pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Cet incident est sans doute mis dans les Écritures pour nous enseigner des choses extrêmement importantes sur comment nous devons nous approcher de Dieu. Que vous soyez chrétien ou non, il y a quelque chose de capital ici. Si vous êtes chrétien, vous avez déjà vécu cette expérience que parfois vous priez longtemps pour quelque chose et il n'y a pas de réponse. Tout comme Jésus n'a pas dit un mot à cette femme au début, n'est-ce pas? Et vous êtes obligé d'importuner Dieu, comme cette femme, de répéter vos requêtes, de prier pendant longtemps, et encore, ça ne vient pas. Comme la parabole que Jérôme a lue, de l'homme à minuit, vous l'avez entendu, qui... frappe chez le voisin parce qu'il y a des gens qui sont arrivés, il n'a pas de pain, et le voisin dit, moi je suis couché, ne m'embête pas. J'ai du pain chez moi, mais je ne me lève pas pour t'en donner. Et c'est un refus. Et l'homme nécessiteux n'accepte pas ce refus. Il dit, et Jésus dit la leçon de la parabole, qui est au sujet de la prière, notre manière de prier à Dieu. Il dit, même si le voisin ne se lève pas parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunité. Donc Jésus enseigne plus d'une fois dans les Écritures que la manière de prier qui obtient la réponse est souvent une manière importune, où nous devons prier longtemps, à répétition, et vraiment insister. Maintenant, ça nous cause un problème, n'est-ce pas? Nous nous disons, mais si Dieu est bon, si Dieu est tout-puissant, il peut faire la chose, et s'il est bon, pourquoi sommes-nous obligés d'attendre? Et donc, il y a des gens qui sont tentés de se fâcher avec l'éternel Dieu et de rester à la surface égoïstement et ne pas comprendre ce qui est en train de se passer ici. Mais dans cet événement, Jésus va nous montrer la raison pour ce besoin d'insister et d'importuner. Si vous n'êtes pas chrétien, la manière de venir à Jésus va vous être dévoilée aussi par cet événement et il va... Le Seigneur va peut-être expliquer pourquoi vous avez essayé de venir à Christ et ça n'a pas marché. Donc, écoutons bien la manière vraiment curieuse. Comme souvent, Jésus nous prend complètement au dépourvu. Il agit, imaginez-vous, vous êtes les disciples là présents, la femme vient, vous avez vu cette bonté de Jésus qui, même dans la région de Tyre et de Sidon, Jésus a déjà été là précédemment dans son ministère. Marc 3 nous raconte que les gens sont venus de Tyre et de Sidon et ont traversé la frontière d'Israël parce que Jésus était juste là et ils ont vu les miracles de Jésus. Et ils ont entendu que les Juifs disaient « C'est le fils de David, le Messie promis, qui est enfin là. » C'est pour ça que les aveugles sont guéris et les gens habités, possédés, sont délivrés. En tout cas, nous verrons que nous soyons croyants ou non, il y a des leçons importantes ici pour nous, au sujet de l'importunité. Alors, nous essayons de comprendre ce qui s'est passé. Oui, j'étais en train de dire que si on était disciples, pardon, j'ai perdu le fil de ma pensée, ça aurait été vraiment très étonnant parce qu'ayant vu la bonté de Jésus envers les gens, voilà, une dame vient et Jésus ne lui répond pas du tout. Et puis, il la traite de chien, n'est-ce pas? Et on se demande, mais comment ça va à l'encontre de tout ce qu'on a vu de Jésus? Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Et pourquoi est-ce que nous, parfois, on sent une apparente refoulement de la part du Seigneur? Mais vous voyez que la fin de l'histoire est heureuse et que ce que Jésus a voulu être pour cette dame, il l'est à la fin. Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. Et c'est ce que Jésus visait dès le début. Mais nous allons comprendre que la raison pour laquelle le Seigneur doit nous obliger de revenir, d'importuner, d'insister, c'est qu'il y a quelque chose qui doit changer chez nous, afin que nous venions à lui de la bonne manière qui convient à un pécheur qui vient à Dieu. D'accord? Nous allons voir. Je vais vous donner quand même un petit exemple. Vous vous rappelez de Jacob? Jacob, dont le nom signifie celui qui usurpe, qui prend l'autorité qui n'est pas la tienne. Alors ça lui correspondait bien, son nom. Parce que toute sa vie, il a passé à manœuvrer pour essayer de trouver le bonheur, la bénédiction, comme on l'appelait dans la Bible. Et il trichait, il fraudait, il volait ce qui n'était pas à lui, n'est-ce pas? Et puis ce jour vient où l'ange de l'Éternel, dans une forme humaine, vient lutter avec lui. Et toute la nuit, il y a une lutte entre Jacob et l'ange de l'Éternel. Et à la fin de la lutte, l'ange lui touche tout simplement à la hanche, disloque sa hanche, il devient handicapé désormais. Et il y a un changement. Quelque chose arrive dans cette nuit où Jacob est obligé d'importuner, d'insister, de persévérer. Et au début, il lutte contre l'ange, comme il a toujours fait dans sa vie. Moi, je veux avoir ceci de ma façon. Mais quand il est blessé, il ne peut plus lutter. Il doit s'accrocher. Et à la fin de la lutte, il s'accroche. L'ange lui dit, il fait jour, laisse-moi. Lâche-moi. Et Jacob lui dit, je ne te lâcherai pas à moins que tu me bénisses. Il a appris dans cet événement que la vraie bénédiction ne vient pas de ma force, de mes manœuvres, mais vient de Dieu qui vient et qui doit lutter avec moi, m'affaiblir, afin que j'apprenne à m'accrocher à lui, à venir à lui nécessiteux et ne pas essayer de tout faire moi-même. Donc vous voyez, il y a une transformation. Et nous le savons parce que ce jour-là, l'ange de l'Éternel change son nom. Il dit, tu ne seras plus appelé Jacob, usurpateur, tu seras appelé Israël. Et la nation d'Israël tire son nom de lui. D'accord? Donc vous voyez bien que Dieu fait des choses bizarres avec nous, mais c'est parce que notre manière de procéder avec lui est complètement désagréable à ses yeux. Nous devons être changés. OK? Donc, on va maintenant regarder la femme cananéenne. Je voudrais vous dire simplement trois choses que nous apprenons par cet événement. La première chose que nous voyons chez la femme cananéenne, c'est que la prière acceptable provient, si vous voulez venir à Christ la première fois pour devenir enfant de Dieu, ou si vous voulez prier à lui en tant que chrétien, la prière acceptable provient d'une conscience profonde de votre besoin de lui. Alors, nous regardons cette femme. Sa fille est démonisée, une réalité terrible que j'ai vue en Afrique, une personne complètement possédée par une autre personnalité qui parle à travers elle, qui la met dans un état incroyable, effroyable. Et voilà la situation de sa fille à elle. Elle est angoissée et elle comprend qu'elle a ce besoin. Personne n'a pu l'aider. Aucun homme ne peut aider cette dame dans sa situation. N'est-ce pas? Mais elle sait que le Christ, lui, a fait ce qu'aucun autre ne pouvait lorsqu'il était auparavant dans cette région. Elle a entendu parler, le bruit lui est parvenu, c'est pour ça qu'elle est venue le chercher. Elle sait qu'il a justement chassé des démons des autres. Et donc elle vient avec ce sens de besoin, elle ne peut rien faire pour résoudre ce problème. Et vous non plus. Vous ne pouvez rien faire pour résoudre le plus grand problème de votre vie, le fait que vous êtes aliéné de votre Dieu si vous n'êtes pas croyant. Vous ne pouvez rien faire pour effacer votre culpabilité, pour changer votre état de cœur qui n'aime pas Dieu, qui ne veut pas le suivre. Et là, si vous n'êtes pas croyant, vous comprenez ce sens de besoin avec lequel il faut venir à Christ. Et si vous êtes croyant, il y a tant de situations dans lesquelles vous aussi, encore, vous ne pouvez rien. Des changements même qui doivent s'opérer en vous. Des péchés, votre colère, votre orgueil, votre égoïsme. Vous voyez que j'ai beau essayer, n'est-ce pas? Et donc, ce qui est étonnant dans l'événement, c'est que le Christ, lorsqu'elle vient avec cette conscience déjà présente de son besoin, Jésus n'enlève pas le besoin. Il l'aggrave. Il l'approfondit. Il rend plus important son besoin. Vous avez vu ce qu'il fait? Juste un exemple, il lui dit qu'elle est un chien. Donc, son problème n'est pas simplement que sa fille est affligée physiquement par un démon. Et votre problème n'est pas physique, tout simplement non plus. Matériel, je n'ai pas ceci, je veux cela. Jésus lui dit, tu es comme un chien, c'est-à-dire tu es en dehors de la famille. Tu t'es mis dans une position par ta rébellion, en t'écartant du vrai Dieu que tu sais exister, en vivant dans la rébellion comme si tu étais ton propre Dieu, en refusant le Créateur, tu t'es fait chien. Tu es criminel, coupable. Et donc Jésus appuie ce besoin, lui met dans une position encore plus grave. C'est fort, hein? C'est fort. De prendre quelqu'un qui est déjà angoissé et lui dire qu'elle est classée parmi les chiens pour Dieu. Attention, le mot chien qu'il utilise n'est pas un mot péjoratif dans le sens mauvais et méchant. Il y a deux mots grecs. La Bible, Nouveau Testament, était écrit en grec, et donc il y a deux mots qui auraient pu être utilisés. Le mot qui est utilisé est le mot. J'ai vérifié ce matin. C'est pas le mot qu'on utilise parfois pour dire gare au chien ou faites attention au chien ou appeler quelqu'un méchamment un chien. Ça, c'est un autre mot. Ce mot, c'est comme si je disais chiot. C'est un mot qui signifiait à l'époque les chiens de la maison, les petits chiens qu'on gardait à la maison. D'accord? Mais quand même. Quand même, Jésus est clair, il lui dit qu'elle n'appartient pas au peuple de Dieu. Donc il aggrave et il dit, ton vrai problème, la raison pour les autres, le problème de ta fille et tout le reste, c'est que tu t'es séparé du Dieu vivant. Tu es allé à l'encontre, tu ne voulais pas de lui. Tu es devenu son ennemi. Et là, ton besoin est plus grand que tu ne penses. Donc, le Seigneur sait que nous avons besoin parfois, non pas d'une réponse immédiate, parce que nous ne voyons pas la profondeur de notre besoin. N'est-ce pas là ton problème parfois? Dans l'évangélisation des évangéliques aujourd'hui, parfois, on fait une grosse erreur. Dès que quelqu'un commence à sentir un peu Dieu travaille dans sa vie, il commence à sentir qu'il est coupable devant Dieu, qu'il est séparé de Dieu, on veut tout de suite lui montrer la solution. Jésus est mort à la croix, viens à lui, tu seras sauvé. C'est pas comme ça que les hommes de Dieu ont fait d'autres fois. Quand quelqu'un commence à avoir cette conviction de péché, son besoin, c'est que cette conscience soit encore plus grande. C'est de l'aider à voir que c'est encore plus grave que tu ne penses. Comme ça, nous travaillons avec le Saint-Esprit qui est en train de le convaincre. Et on essaie de voir, oui, tu as raison, et c'est encore pire. Soyez encouragés, c'est pire que tu n'as pensé. C'est ce que je dis parfois. Parce que seulement quand tu vois la gravité, là tu vas être complètement dépendant. Je vous donne un petit exemple et puis on va passer au deuxième point. Hein? On a trois points. Donc je ne vais pas aller trop long. C'est une vraie histoire. Un pasteur chinois raconte cet événement qui lui est arrivé. Il était avec un groupe de chrétiens un jour et il nageait dans un point d'eau. Et donc, il y a un des frères qui a commencé à se noyer. Là présent, tout le monde savait qu'il y avait un garçon qui était un maître nageur, un nageur vraiment formidable. Et les gens criaient vers lui de faire quelque chose. Et il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Comme Jésus avec la femme. Et juste au dernier moment, quand c'était presque trop tard, le garçon a sauté dans l'eau et avec deux ou trois mouvements, il arrive au bonhomme qui était là, au bout de force, exténué, qui arrivait à la surface pour la dernière fois, peut-être. Il l'a attrapé et il l'a tiré à la rive, il l'a sauvé. Après avoir pris soin de lui, donc les autres ont abordé le maître nageur et l'ont vraiment réprimandé rudement. Ils lui ont dit, mais tu as failli laisser le type mourir, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Et le maître nageur a expliqué que si on va trop tôt vers une personne qui est en train de noyer et qui est en train de se battre avec une force, là, vous allez vous noyer tous les deux. Il va certainement t'attraper avec toute sa force parce qu'il est pris de panique. Et là, c'est très, très dangereux. Elle a dit qu'on est obligé de les laisser s'affaiblir parce que seulement quand ils sont faibles et ils ne peuvent plus faire quoi que ce soit, tu peux facilement les attraper et les ramener. C'est ça le sens de ce que le Seigneur fait souvent avec nous. On n'a pas de réponse. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas? C'est parce que vous avez besoin de voir ce besoin que vous avez. Et sa grandeur et votre complète dépendance de Dieu pour le résoudre. OK? Bien. Deuxième point. La prière acceptable provient d'une conscience de notre indignité. Le premier, c'était que ça provient d'une conscience de notre besoin, mais aussi la bonne manière que Dieu accepte lorsqu'on vient à lui, c'est que notre approche est empreinte d'un sentiment de notre indignité. Nous ne sommes pas dignes de recevoir ce que nous demandons. Nous allons regarder comment Jésus apprend cela à cette femme en la faisant attendre et importuner. Nous lisons dans la version de Matthieu et chapitre 15, dans les versets 22 et 23, ceci. Donc, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent de lui et lui demandèrent, renvoie-le car il crie derrière nous. Nous voyons que donc, au début de cet événement, Jésus refuse de la reconnaître, de lui répondre. Et on se demande pourquoi, et sans doute Jésus est en train de lui apprendre une chose salutaire pour nous tous. Nous pensons que le besoin mérite la solution. Que si j'ai un besoin, Dieu doit me répondre. Si mon enfant est malade, si j'ai ceci, j'ai cela, donc j'ai un droit sur Dieu à cause de mon besoin. N'est-ce pas? Et Jésus lui montre qu'il n'en est pas, il n'en est pas ainsi. Elle a un besoin, elle a un désir énorme, elle veut la délivrance de Jésus, mais un désir ne suffit pas pour être exaucé. Et pour vous aussi, vous pouvez désirer tout ce que vous voulez. Et ça ne suffit pas. Je vais vous dire pourquoi. C'est simplement que, en nous détournant de Dieu, nous avons perdu le droit de la bonté de Dieu. Nous avons mérité son refus et sa colère. Passer toute sa vie à faire aucun cas du Créateur, à ne jamais l'écouter, et puis au moment où tu as un grand besoin, revendiquer qu'il t'écoute. C'est complètement contre la justice. Ce que tu mérites, c'est que Dieu te fasse ce que tu lui as fait. Tu n'as pas écouté le Dieu éternel lorsqu'il t'a parlé, lorsqu'il a dit « fais ceci et pas cela ». Et puis tu veux qu'il t'écoute dès que tu as un besoin. C'est comme si Dieu est ton boy. Tu peux négliger ton serviteur à la maison, n'est-ce pas? N'avoir rien à faire avec lui, plus ou moins. Mais lorsque tu as un besoin, tu dis, viens là, fais ce que je veux et vite. Et les hommes veulent prier Dieu, mais ce n'est pas la vraie prière. C'est dicter à Dieu comme un serviteur et comme un boy. Et bien sûr, ça ne marchera jamais. Je vous demande, quelqu'un qui pense que ma volonté suffit pour que la chose arrive, cette personne pense qu'elle est qui? Qui est le seul être dans le monde que sa volonté suffit pour que la chose arrive? Dieu, n'est-ce pas? Ce que Dieu veut est parfait et bon, et ce qu'il veut, il a le droit de l'avoir. Mais lorsque nous venons à Dieu sur cette base, je le veux, et puisque je le veux, tu dois me répondre. Nous sommes en train d'agir comme si nous sommes Dieu et que Dieu est notre serviteur. Nous ne comprenons ni Dieu, ni qui nous sommes en tant que pécheurs. Oh là là, il faut que Dieu ne réponde pas pour le moment. Donc cette dame n'a pas de réponse de la part de Jésus au début. Nous lisons dans le livre de Michée, le prophète Michée dans la Bible, au sujet de ceux qui ont refusé d'obéir à l'Éternel. Il dit ceci, « Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. » Et puis le décret, « Il dévore la chair de mon peuple. » Alors ils crieront envers l'Éternel, mais l'Éternel ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Ou bien dans le livre de Proverbes, ceux qui ont refusé d'écouter la sagesse de Dieu. Dans le livre de Proverbes, la sagesse est dépeinte à un moment donné comme une dame. La dame sagesse qui dit, écoute-moi, écoute la sagesse de Dieu, vis selon la sagesse de Dieu. Et les gens disent, je m'en fiche de la sagesse de Dieu. Et puis, ils tombent dans le malheur. Et ils veulent que le Seigneur leur réponde. Mais écoutez ceci. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas, ils me chercheront et ils ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la connaissance de Dieu et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Donc, vouloir, ça ne suffit pas. Ça peut être tout simplement votre égoïsme. Il faut aller un peu plus loin. Alors, après cela, dans un deuxième temps, donc la femme vient vers lui, ou plutôt les disciples, et disent « renvoie-la ». « Renvoie-la, elle nous casse les pieds ». Jésus dit, j'ai été envoyé seulement vers les brebis perdues d'Israël. Maintenant, pour mettre dans le contexte, les amis, vous savez que dans les 3 ans du ministère de Jésus, quand il était sur la terre, son ministère était d'abord d'apporter l'évangile d'abord aux Juifs. Et après, il a envoyé ses disciples à toutes les nations. OK? Donc, je ne vais pas vous expliquer tout cela pour le moment, pourquoi ça, mais il y a des raisons. OK? À cette époque, Israël était le peuple choisi de Dieu. Toutes les nations du monde adoraient des faux dieux. Et même les historiens le disent. Ils disent qu'Israël, à l'époque du 1er siècle, était le seul peuple monothéiste qui adorait un dieu invisible. Lorsqu'on fait de l'archéologie, on trouve que tous les peuples de la terre qu'on connaît ont adoré de multiples dieux qui étaient des statues de bronze, de pierre, de machin. Un seul peuple connaissait le vrai Dieu parce que Dieu a pris ce peuple pour garder sa connaissance sur la face de la terre jusqu'à ce que le Christ vienne. OK? Donc ce peuple est gracié, choisi par Dieu, non pas qu'il est parfait, et tout le monde en Israël ne connaissait pas le Seigneur, mais le peuple en tant que peuple est choisi. OK? Maintenant, le Seigneur dit. J'ai été envoyé pendant ces 3 ans seulement aux brebis perdues d'Israël. Et voilà une deuxième exclusion. La phrase semble l'exclure complètement, n'est-ce pas? Et oui, elle doit comprendre par là que Dieu fait son bien non pas parce que je le revendique, c'est pas mon désir qui est la source du bien, mais c'est son désir de bénir. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui veut bénir. C'est Dieu qui veut ne pas laisser partir le monde entier, mais prendre un peuple du monde pour les ramener à lui et les bénir. N'est-ce pas? Et donc, c'est pour dire que ce n'est pas nous qui commandons Dieu et qui choisissons et qui aura le bien, le salut, la délivrance. C'est Dieu. C'est Dieu qui est Dieu. C'est lui qui choisit. Il sauve qui il veut et il endurcit qui il veut, car il est Dieu. Et il ne fait aucune injustice à qui que ce soit en faisant ainsi. Donc, pour un deuxième temps, elle voit que je ne fais pas partie du peuple de Dieu. Je suis en dehors et c'est ma propre faute. Je me suis détourné et moi qui vis à la frontière d'Israël, j'aurais pu devenir converti à la fois dans le vrai Dieu. J'avais toutes les occasions, mais je ne l'ai jamais fait. Et maintenant, ma fille est possédée. Demandez-vous pourquoi. Lorsque vous adorez des faux dieux, vous adorez des démons. N'est-ce pas? Et donc, voilà, elle doit comprendre son indignité. Mais le comble de cela, c'est à la fin. Et là, vous le voyez dans l'évangile de Marc, chapitre 28, chapitre 7, verset 28, où Jésus dit qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et là, il la classe, comme je vous ai dit, parmi les chiens qui ne font pas partie de ceux qui sont à la table. Et donc, il augmente beaucoup son sens d'indignité. Ouh là là, s'il en est ainsi, je dois venir, non pas par mes mérites, donne-moi à cause de qui je suis, mais veuilles-tu bien avoir pitié de moi malgré le fait que je suis complètement indigne de cela. En d'autres termes, souvent vous devez insister et importuner parce que pendant trop longtemps vous demandez un dû de la part de Dieu et pas une grâce. C'est tout. Vous venez demander soit le salut ou une bénédiction comme un dû, comme quelque chose qui vous est dû. Et Dieu ne vous doit plus rien, comme vous vous êtes détourné de lui. C'est une leçon dure. Mais quand on le voit, je pense à cet événement dans les années 1820. Un Écossais est venu à Genève pour pour voir s'il y avait des gens qui croyaient encore à l'évangile. À l'époque, même les gens dans la faculté de théologie de Jean Calvin ne croyaient plus à la divinité de Jésus-Christ. Il y avait vraiment une situation désastreuse. Et il a commencé à faire une étude biblique sur l'épître de Romains dans sa maison. Et quelques-uns des étudiants de la faculté commençaient à venir. Et quand il est arrivé au chapitre 3, où il lisait dans l'épître aux Romains, nul ne cherche Dieu, pas un seul. Nul n'est juste, pas un seul. Nul ne fait le bien, pas un seul. Un de ses étudiants de théologie, il a dit, ah, je le vois. Et Alden répond, mais est-ce que tu le vois que c'est toi, ça? C'est ton cœur. Et c'est ça que nous devons arriver à voir. Nous pensons que nous avons cette grande bonté, n'est-ce pas, vis-à-vis des autres, alors que tout le temps nous sommes en train de nous fier, nous opposer complètement au Dieu éternel. Donc, elle doit arriver à ce stade où elle voit qu'elle est exclue, qu'elle s'est exclue, qu'elle est indigne, que Dieu ne lui doit rien, que Christ ne lui doit rien et il ne vous doit rien, sauf la justice, ce qui serait pour vous l'enfer, car le salaire du péché, c'est la mort. Ok, donc nous avons vu deux points, le troisième est court. Nous avons vu que Dieu doit vous amener importuner, à prier longtemps parfois, parce qu'il doit grandir votre sens de besoin et il doit vous apprendre votre indignité, afin que vous veniez demander des grâces et pas des dûs. Dans une église où j'étais pasteur, il y avait une femme qui priait, qui s'angoissait au sujet du salut de son enfant. Elle avait un enfant adolescent, en fin d'adolescence, et cet enfant n'était pas converti, et chaque fois qu'on était avec elle, elle en parlait. Elle était obsédée, angoissée par cela. On voyait quand elle en parlait. Et bien sûr, si on aime son enfant, on comprend bien ce sentiment. Mais il y avait quelque chose de plus. Elle était frustrée avec Dieu. Et parfois, elle laissait échapper un peu cela. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne sauve pas mon enfant? Et là, j'ai dû lui parler et l'aider petit à petit à comprendre que Dieu ne va jamais répondre tant que vous l'approchez de cette manière-là. Parce que vous agissez comme Dieu vous doit cela. Comme Dieu n'a pas le droit de dire non. Et lorsque vous allez apprendre que Dieu peut dire non, et vous allez lâcher, vous allez céder devant l'éternel Dieu, vous allez trouver qu'il est un Dieu de grande générosité et de grâce pour ceux qui viennent demander des grâces, des choses qu'ils ne méritent pas. Ce jeune homme est converti aujourd'hui, mais elle aussi, elle est changée. Elle a appris beaucoup au sujet de la manière de s'approcher de Dieu et comme un indigne. Donc, le dernier point, le troisième, c'est que la prière acceptable provient d'une compréhension de la générosité immense du Seigneur. Et ça aussi, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. Et cette femme l'apprend d'une manière intéressante. Trois étapes. Je vais vite. Nous voyons que dans un premier temps, le Seigneur était déjà à l'œuvre dans sa vie, parce qu'elle vient, elle dit, aie pitié de moi, fils de David. Elle n'est pas ignorante. Elle sait qui c'est. Elle dit, fils de David, et ce titre signifie quelque chose pour elle. Elle en sait quelque chose sans doute à travers ses voisins juifs. Qu'est-ce que c'est que le fils de David? Ce descendant David qui devait venir et avec lui et par lui, en lui, la grâce et la délivrance. N'est-ce pas? Lorsque nous lisons ce qu'on disait avant que le Messie vienne, comment il serait, dans les Écritures, Dieu avait promis, par exemple, ceci. au moment de la venue de ce fils de David, le Messie, il jugera ton peuple selon le droit et les malheureux selon la justice. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, les collines aussi par la justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les fils du pauvre et les filles des Cananiennes. Il écrasera l'oppresseur. Il descendra comme une pluie tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la terre. C'est-à-dire, ce fils de David, ce sauveur envoyé de Dieu, serait comme des bonnes pluies qui viennent nous abreuver dans nos besoins, qui seraient comme ça. Donc, elle a dû savoir quand même quelque chose au sujet de ce Messie, comment il était. Elle n'était pas ignorante, mais elle doit voir un peu plus clair. Et nous voyons que, aussi probablement que, puisque Jésus avait été dans la région, elle avait fait de grands exploits, avait guéri des gens, pris soin des malheureux, qu'elle avait entendu au moins le récit de comment il était, sa puissance, son amour, sa bonté. Et donc, elle est sur le chemin. Parce que quand tu te vois indigne, il y a un problème. Tu peux te désespérer, n'est-ce pas? Tu vois que tu es coupable, et il y a des gens qui disent, ben, c'est fini pour moi. Je suis tellement mauvais. Dieu ne va jamais regarder à moi. Ça, c'est tellement faux. Christ dit, je suis venu non pour les justes, mais pour les injustes. Et donc, il doit nous apprendre, et parfois ça prend du temps, n'est-ce pas? Pour qu'on puisse voir qu'il m'aime tel que je suis, avec tout ce que j'ai fait de mauvais, il m'aime. Non pas à cause de moi, mais à cause de lui, il est plein d'amour. Et donc, avec elle, il y a quelque chose qui a déjà commencé. Au début, il ne répond pas à un mot, mais il ne la renvoie pas. Et là, il y a pour elle quelque chose. Et même quand les disciples viennent, renvoie-la parce qu'elle nous casse les pieds. Jésus dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis d'Israël. Mais il refuse d'accéder à leur requête. Il ne dit pas, ok, allez, dis-lui, va-t'en. Envoie-la. Non, 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 il refuse de la renvoyer. Et si il permet, malgré une demande, qu'elle reste, elle doit prendre courage un peu. Mais pourquoi il les refuse? Pourquoi il me laisse là? Jésus est en train d'entrouvrir une petite porte pour elle. Et c'est pour ça qu'elle vient après, « Seigneur, aide-moi !» Et maintenant, il dit, « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens de la maison. » C'est la première fois qu'il lui adresse la parole. Vous avez remarqué? D'abord, il dit rien. Deuxièmement, il parle qu'aux disciples. Et maintenant, il lui parle. Ah, la porte s'ouvre encore un peu plus. Et non seulement il lui parle, mais il lui parle d'elle-même. Avant, il n'avait parlé que des brebis d'Israël, n'est-ce pas? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis d'Israël. Dans cette scène, c'est lui et Israël. Maintenant, il ouvre plus. Il parle de lui-même, il est le maître à la table avec les enfants. Les enfants sont Israël, mais il ajoute quelqu'un d'autre dans la scène. C'est qui? C'est les chiens, c'est les petits chiens. Qui sont où? Ah, ça c'est des chiots de maison. N'est-ce pas? Elle comprend, elle pige tout de suite. Et donc elle dit, mais Seigneur, même les petits chiots mangent les miettes qui tombent de la table. Et il dit, à cause de cette phrase, va, ta fille est guérie. C'est-à-dire, tu as tout compris là où je voulais t'amener. C'est le moment pour moi de m'occuper d'Israël. Mais, je suis ce sauveur dont la grâce est pour le monde entier. Et même maintenant, il y a des miettes qui tombent. Et même les chiens, même ceux qui font pas de partie d'Israël, en mange et en bénéficie.
va à ta maison, il y a une miette qui tombe, et une seule miette de moi, de ma part, délivre ta fille pour toujours. Et donc, il révèle progressivement, n'est-ce pas, à elle sa bonté. Et à la fin de l'histoire, le Seigneur qui avait commencé en disant rien, qui semblait être distant et réticent, c'est ce sauveur qui dit « ô femme, ta foi est grande ». Il l'embrasse par cette phrase, il l'accueille, il dit « tu es à moi, je me plais de ce que tu es devenu maintenant, ta foi est grande ». Il parle en bien d'elle, n'est-ce pas? Et elle repartit non seulement dans la joie de voir sa fille délivrée, mais dans la joie de savoir que le Christ, le Sauveur de Dieu, lui dit que tu es accueilli maintenant, que tu me fais confiance en tant qu'une indigne. Et c'était là où je te voulais, parce que je t'aurai pour toujours maintenant. Là, c'est un cheminement, n'est-ce pas, de l'amener jusque-là. Et parfois pour vous aussi, pour vous apprendre votre besoin et votre indignité, pour que vous veniez les mains vides au Seigneur et que vous sachiez qu'il est ce Sauveur qui accepte tous ceux qui viennent comme ça et qu'il les bénisse. C'est là où le Seigneur veut vous amener. Et qu'il le fasse pour chacun de nous la première fois si vous n'êtes pas chrétien. Et plus profondément, si vous l'êtes. Nous allons chanter ensemble pour nous préparer pour la scène.